Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreu. Aujourd'hui, 120 ans d'histoire du naturisme à Marseille.
Quatrième partie, les années 70-90, mutations et interrogations chez les naturistes, avec Bruno Sorez, auteur de 120 ans de naturisme à Marseille.
Il faut agir immédiatement. C'est pas du sucre. Passez-moi l'expression, les nudistes, cruchons, sur les oreilles. Il y a trop longtemps qu'ils monarquent. Rassemblez tout le monde. Allez, allez. Géricault, qu'est-ce que ça
lui dit? Chef, c'est quelqu'un de tout nu.
Merlot, qu'est-ce que ça là?
C'est quelqu'un de habillé, chef.
Avec un uniforme.
Très bien. Donc, si le gendarme est tout nu, il peut approcher le tout nu. Mais rien ne prouve plus qu'il soit gendarme. Par contre, si le tout nu voit le gendarme, il s'habille et rien ne prouve plus qu'il soit nudiste. C'est ce que nous appelons dans notre jargon de métier et donné contradictoire. Alors nous attaquerons l'ennemi de toutes parts. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Parfait. Au hasard, une poule sur un mur qui picote du pain dur, picotit, picota, lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que je veux dire?
Et moi j'ai rien dit, chef.
Tu avais trop entendu parler?
Ah non, je vous jure, chef.
Marchez comme tu veux. Et puis, sans pas.
Ah, bah ça, c'est de la triche, chef.
Comment?
Non, je disais, c'est de la triche.
Oh, dites-vous, priorité. Qu'est-ce que vous disiez?
Oh, rien, rien, rien.
Ah, je vous entends murmurer. Et moi, cette nuit, vous allez préparer le terrain. Hein? Et vous aurez l'honneur d'être le premier au contact de l'ennemi. Voilà. J'espère que vos camarades vous en ont dit. N'est-ce pas?
Compé! Pardon, chef, peut-être que juste un petit cycle.
Tu quoi?
Non, juste un petit cycle, je disais, c'est
l'histoire.
Quand il faut, un chef.
On a parlé des années du naturisme, hein, depuis ses débuts au XXe siècle jusqu'à la fin des années 60, hein, donc quatrième émission. Là, on va parler de la fin du naturisme après mai 68, date symbolique de la libération des mœurs. Et on va commencer par l'affaire qui avait créé débat en France concernant le mouvement féministe, une affaire de viol de naturiste belge qui était en plus était homosexuel. Peut-être là, tu peux me dire quelques mots sur cette affaire-là qui avait effrayé les chroniques mondiales. Je dirais même marseillais, nationale, mais même internationale, puisque là, il y a eu un procès dont l'avocate très célèbre n'entendait rien d'autre que Gisèle Halimi. Peux-tu me parler de cette histoire-là, de cette affaire-là, de jeune naturiste belge violé?
Alors, j'ai un petit peu hésité à aborder ce sujet dans mon livre, parce que je voulais pas qu'on m'accuse de récupérer une histoire sordide pour mettre en avant le naturisme, parce que, évidemment, on est assez éloigné du sujet. J'ai finalement décidé d'en parler parce que ça démontre que le naturisme fait partie de la vie de la société. Et à une époque où dans les années où ça s'est produit, donc au début des années 70,
74.
Où on 74 exactement, où on considère de notre point de vue actuel que les mœurs c'est libre, que les gens étaient super tolérants, que il y avait de la nudité partout, que les filles s'habillaient légèrement, que en topless, que il y avait plus de tolérance, on se rend compte que l'histoire, encore une fois, elle n'est pas forcément linéaire comme on pourrait le supposer et qu'elle réserve des surprises plus ou moins bonnes et que c'était pas forcément une époque bénie pour le naturisme et pour preuve cette histoire terrible qui est arrivée à deux jeunes touristes belges. Et j'ai décidé d'en parler parce que finalement, le naturisme a été utilisé à mauvais escient par les défenseurs des violeurs pour mettre en cause les victimes, alors qu'elles ne faisaient pas du naturisme au moment des faits. Ça, c'est important de le préciser. Elles étaient dans leur tente. Elles avaient été repérées en train de marcher pour rejoindre Morgiou. Elles devaient rejoindre des amis à Sugiton, du côté des Pierres Tombées, du côté de la clanque naturiste. Elles devaient les rejoindre en kayak. Donc, à l'époque, on imagine le kayak que ça devait être. C'était un kayak gonflable. Donc, il y avait trop de houle pour y aller. Elles ont décidé de camper à Morgiou par sécurité. Et elles avaient été repérée en train de marcher pour rejoindre Morgiou sur le sentier par un gars plus âgé qu'elle, je crois. Et elles l'ont refoulée, enfin voilà, gentiment, elles l'ont pas envoyé chier, hein, elles ont juste dit
que c'était pas
à peine. Et le gars est tombé sur elle en promenant son chien dans la soirée. D'abord, il est venu seul, il a repéré qu'elles étaient dans une tente, il a appelé deux copains à lui, toujours avec le chien, et il s'est incrusté dans la tente. Et là, dans la tente, elles étaient allongées, elles étaient nues, et il a pris ça comme une invitation, même en étant reçu avec un coup de marteau dans la tête. Il a cru que il était invité. Donc, vous imaginez.
Elles se sont défendues.
Elles se sont vivement défendues, et elles ont subi le viol pendant 4 heures. Elles ont été violentées de façon très, très atroce, avec des coups de poing, des coups de pied, avec un chien à côté, on imagine. À l'époque, il y avait une enquête de moralité des victimes de viol. C'est-à-dire qu'avant de savoir d'où venaient les agresseurs, ce qu'ils faisaient là, une enquête plutôt sur eux, on cherchait à savoir si les victimes n'avaient pas provoqué l'agression. On a découvert qu'elles étaient lesbiennes, on a découvert qu'en plus elles étaient naturistes, on n'a pas cherché à savoir si elles fricotaient ensemble, nues, sur la plage, aux yeux de tous, pour... Le simple fait d'être lesbienne et d'être naturiste a suffi à les accuser, alors qu'au moment des faits, les violeurs n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient naturistes. Mais après coup, ça leur a desservi.
Quand une femme est violée, on commence par dire, mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme.
Interview de Gisèle Halimi, réalisée par France 3 Reims, le 26 mai 1977.
Incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos, c'est-à-dire, sauf bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Nous voulons donc la publicité. Voici cour d'assises et publicité. Parce que nous pensons que une chose pour un homme est de violer, et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion. Mais je le répète, nous ne sommes pas répressifs. Chaque fois qu'on nous a demandé des mises en liberté provisoire de violeurs, choisir a dit banco. Ça veut dire que nous n'avons jamais pensé que la prison pouvait être une bonne thérapeutique. Mais ce que nous trouvons suspect et inadmissible, c'est que la campagne se fasse contre l'emprisonnement des violeurs. Elle ne se fait pas ailleurs. C'est un signe important, ça veut dire violer une femme, c'est pas grave au point qu'on mette des hommes en prison. En revanche, voler dans un drugstore ou faire un chèque sans provision, la prison, oui. Alors nous disons, si vous voulez supprimer la prison, pour tout le monde, comme système, nous signons des deux mains. Mais si vous commencez à la supprimer uniquement quand il s'agit de viol, eh bien c'est une indication qui est grave et qui signifie que vous considérez que c'est une chose banale, anodine. En fait, une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui ne s'en remettra, à mon sens, jamais. Elle entre dans une espèce de coma. Quand elle est partie d'elle-même, entre dans une espèce de coma et elle survit, je crois, d'une espèce d'autre vie. Et quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ça n'est pas pour elle. Elle s'en remettre, je ne sais pas si elle le peut, mais qu'elle le fait justement pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies.
On dit souvent que les violeurs sont des immigrés, sont des obsédés sexuels, des fous. En fait, pour vous, le viol est surtout une torture.
C'est une... Moi, je lutte personnellement parce que j'ai un passé, si je puis dire. J'ai beaucoup lutté contre la torture, on dit qu'elle se pratique et je continuerai. Et j'ai remarqué qu'il y a peu de frontières. La frontière n'est pas claire entre la torture que l'on inflige à quelqu'un et le viol. Il y a l'élément sexuel. Mais dans une affaire que je vais plaider bientôt, dans une cour d'assises, le viol a été pratiqué par quatre, pas du tout prolétaires ni immigrés, hein, des ingénieurs, architectes, des gens bien de chez nous. Le violeur moyen commun est un bon français, tristement ordinaire, pas psychopathe et pas immigré.
Vous pensez que les hommes, tout de même, un jour, violeront de moins en moins ?
Vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que je dois être optimiste, autrement je ne les mènerai pas. Je pense qu'en tout cas, l'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. Ce n'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme.
Donc en gros, les victimes se sont retrouvées coupables.
Elles se sont retrouvées coupables, comme la majorité des victimes de ce crime à l'époque. Et puis quand elles ont porté plainte, on les a accusées d'être des salopes et d'avoir provoqué... Et les gens qui les accusaient de ça n'avaient aucune preuve pour dire ça, mais c'est pas grave. Et vous vous rendez pas compte, ces gens-là, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont un travail, vous allez détruire leur vie.
Oui, mais je parle, tu parles des violeurs, oui.
On les accusait de détruire la vie des agresseurs qui étaient d'ailleurs défendus par leurs propres femmes qui les accusaient, donc les victimes, d'être des salopes qui les avaient provoquées.
Et ici par Maître Collard aussi.
Et Maître Collard qui a été un de leurs avocats, qui a été un avocat, j'ai pas les mots pour le décrire, mais il a dit clairement que quand on est des touristes, on ne se met pas dans des situations pareilles parce qu'on sait très bien que ça va mal se passer.
Très bien pour les Marseillais, pour la mentalité des Marseillais. Je crois que l'autre avocat par contre n'est pas une inconnue.
Alors l'avocate Gisèle Halimi n'a pas été leur toute première avocate. Quand elles avaient porté plainte la première fois, elles avaient été défendues par une avocate qui les a d'ailleurs dans un premier temps rassurées. Le fait d'être une femme, ça les a rassurées. Mais cette femme, dont j'ai pas le nom en tête, elle leur a dit, aimez-vous heureuse d'être encore en vie, parce que à la limite c'est presque une preuve que ça s'est bien passé, enfin que ça s'est pas trop mal passé quoi. Sinon vous serez pas en vie.
Pas trop rassurant comme argument.
Ça aussi, ça a joué en leur défaveur, puisque le fait d'être en vie, on a considéré qu'elles étaient consentantes, ou plus ou moins consentantes. Sinon, elles ne seraient pas en vie.
Il y a eu le fameux procès Nex avec l'avocate parisienne Gisèle Halimi, très connue pour défendre le droit à la cause des femmes.
Premier procès, pas eu de suite. Donc, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme un simple vol d'orange, quoi. C'était un fait arrangé dans un délit. Et donc Gisèle Halimi a repris le dossier. Gisèle Halimi qui avait défendu déjà dans un premier temps une jeune adolescente violée et enceinte, et donc qui voulait avorter, et l'avortement était interdit.
Le procès de Bobigny.
A pris ce dossier aussi à bras le corps. Je crois qu'il y a eu 6 ans de procédure.
78
de procédure. Oui, mais la décision de justice, je crois que ça a mis longtemps après. Oui. Donc le procès a eu lieu en 78 à Aix. C'est là qu'on a reconnu tout Mitterrand que le viol était incroyable.
Et au moins le côté entre guillemets positif de ce procès-là, de faire le viol comme un crime.
Voilà, donc du coup, comme on dit depuis quelque temps avec le récent procès de Mazan.
Ainsi que d'autres.
Ainsi que d'autres, mais la fameuse phrase la honte change de camp.
La honte change de camp. C'est, au moins, cette conclusion de cette affaire-là, même si les peines des accusés étaient quand même relativement basses par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui.
Oui, cette histoire de viol est une catastrophe pour les victimes, puis ça a détruit leur vie. Il y a eu un très beau téléfilm, très réussi d'ailleurs, qui est sorti il y a 3-4 ans, et qui retrace assez bien l'histoire. Et pour une raison que je ne connais pas, le viol, enfin la scène du viol n'a pas été tourné dans les Calanques, mais à la Calanque de Figuerolles à La Ciotat. La plupart, j'ai rien contre les cabanonniers avec qui je m'entends bien, mais la plupart des cabanonniers de l'époque étaient très copains, qui connaissaient les violeurs, puisque c'était des gens du quartier, de Mazargues et puis de Morgiou, défendaient évidemment, entre guillemets, ces agresseurs.
Deuxième et dernière journée du procès des violeurs à Aix-en-Provence. Depuis quelques minutes, on connaît le verdict, 6 ans et 2 fois 4 ans de réclusion criminelle pour les violeurs. En fait, c'est un procès qui s'est très vite transformé en procès du viol tout court. Du tribunal, on est passé à la tribune, cela a quelque peu agacé le président aux assises, et puis on a vu monter dans l'auditoire, de part et d'autre, beaucoup de haine et beaucoup d'insultes.
Ce matin au palais de justice d'Aix-en-Provence, des réactions de violence parce que ces deux jeunes Belges, Anne et Araceli, violées il y a 4 ans dans une calanque entre Marseille et Cassis, ont osé porter plainte.
Je ne vous ai rien demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous la bouclez.
Ah non, bouclez-vous d'abord.
Vous
d'abord.
Vous êtes qui? La bande de voyous là qui vient?
Reportage d'Antenne 2 du 3 mars 1978.
Des injures, des crachats, des obscénités, des coups, c'était à chaque entrée ou chaque sortie d'audience les mêmes scènes. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un jury d'assises a jugé des violeurs. Ce n'est pas la première fois que des militantes féministes font publiquement la démonstration de leurs revendications et qu'elles sont contestées. Peut-être est-ce au fond, comme le dira Maître Gisèle Halimi, que le combat des femmes entrepris depuis peu est en train de régresser dans la compréhension populaire.
C'est un climat de haine et d'hostilité que nous éprouvons depuis 2 jours. Nous n'avons à aucun moment ressenti de la part de tous ceux qui nous entouraient l'impression d'être compris.
Jamais le président des Assises n'acceptera que l'on débatte des causes et des conséquences d'un tel crime. Les faits, rien que les faits, devaient être expliqués. Dans leurs détails, ils étaient déjà, il est vrai, une terrible accusation. Après avoir été violées pendant plusieurs heures, elles étaient comme 2 petites bêtes. Ce qui était épouvantable, c'était pour moi de ne pas reconnaître leur visage, dira la mère d'une des victimes. Dehors, sur la place du marché, on attend dans l'indifférence ou la passion, tandis que des témoins plus célèbres confient leur honte.
Dans cette région de la Méditerranée, il y a une espèce de consensus sur le fait que, comme on dit, on perce les femmes. Et finalement, l'espèce de complicité masculine me paraît une insulte pour les hommes et pour la conception que nous avons de l'amour.
Les défenseurs des accusés répondront que ceux-ci se sont mépris, que les actes reprochés sont masqués par une campagne publicitaire, que l'exorcisme du viol ne passait pas par des manifestations. Maintenant, pour s'interroger en son âme et conscience, comme l'ont fait les 9 jurés de la cour d'assises d'Aix-en-Provence, il faut, je crois, se demander pourquoi et comment ces 3 hommes accusés, un fanfaron immature, un bagarreur prétentieux et un vantard coléreux, ce sont les qualificatifs utilisés par l'avocat général, qui a requis au moins 6 ou 7 ans de réclusion criminelle, comment ces hommes sont devenus criminels violeurs? Enfin, quelle répression, quel emprisonnement sont justes pour devenir exemplaires?
Et tout à l'heure à Paris, un sénateur, une femme, a proposé la création d'un office pour la protection de la femme. Brigitte Gros, élue des Yvelines, estime par exemple que l'accueil des femmes victimes de viol devrait être assuré par d'autres femmes, aussi bien dans les commissariats que dans les cours d'appel.
À l'époque, il y a des nouveaux débats qui s'instaurent dans le naturisme, parce que là, il y a un boom du mouvement naturiste à l'époque. On va parler de plus en plus de naturisme, mais il y a des débats qui commencent un peu à germer dans les clubs sur la nature du naturisme. On n'est plus au début du XXe siècle. On est dans la deuxième partie du XXe siècle. Et là, il commence à y avoir des distinctions, des discussions entre naturistes, des débats, on se pose des questions. Et puis, sur le côté, il y a des centres qui se créent. Il y a Montalivet, le Levant, tu as celui d'Oltra au Cap d'Agde. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces centres-là et quel débat ça suscite?
Alors, en fait, l'idée première d'Albert Lecoq, c'était de rendre accessible le naturisme à tout un chacun, aussi bien financièrement qu'au niveau géographique, en créant énormément de lieux et idéalement dans toutes les villes de France. Et donc, du coup, il y avait de plus en plus de naturisme, de naturistes, de pratiquants. Et ce naturisme s'est démocratisé. Et donc, ce naturisme s'est démocratisé. Il y a eu de plus en plus de pratiquants. Et les centres se sont forcément étendus. Les besoins aussi ont évolué. Les premières exigences de confort ont commencé à émerger. Les naturistes qui aidaient les associations à entretenir le terrain, à couper les haies, à désherber, à entretenir la piscine, ces associations-là ont commencé un petit peu à péricliter. Il y avait de moins en moins de volontaires pour aider les associations à entretenir le terrain. Et les vacanciers, ils avaient juste pour but de profiter de leurs vacances, presque en devenant des consommateurs de lieux. Et donc, du coup, le naturisme a un peu changé. Il est devenu consumériste, un peu à l'image de la société. Et donc, il y a eu les premiers bungalows de construits. Il y a eu de moins en moins de place pour les tentes, petit à petit. On s'est retrouvé avec des naturistes qui affichaient plus ou moins leur aisance financière, parce que forcément, celui qui avait un grand bungalow n'avait pas, en théorie, la même capacité financière que celui qui était en tente. Donc du coup, le naturisme a un peu changé et les anciens naturistes voyaient ce changement d'un mauvais œil, puis notamment quand le Cap d'Agde a commencé à être construit, centre de vacances du Cap d'Agde, parce que autant le village de Oltra est resté plus ou moins dans un esprit naturiste d'origine avec des lieux d'aménagement en tente, autant le lieu, le village a avec les constructions en dur, avec les appartements, on s'éloignait.
Un demi-cercle là.
Oui, on s'éloignait du naturisme originel. L'idée de départ était presque d'instaurer une ville entière où on pourrait pratiquer le naturisme. C'était presque une vision utopique de la société moderne où on pouvait être nu en faisant le plein d'essence.
Mais Zandoltra, enfin le Cap d'Agde, est devenu peut-être un lieu de mauvaise réputation, vu que c'était fréquenté par un milieu que les naturistes n'apprécient pas trop, ou qui ne veulent pas être assimilés.
Alors effectivement, là on commence un petit peu à avancer dans le temps pour faire un bond dans les années 80, où le libertinage a commencé à prendre pied et à s'implanter au Cap d'Agde, au village naturiste, en prenant même la place d'aires de jeux pour enfants. Il y a eu des aires de jeux pour enfants qui ont été détruits et à la place ils ont mis des boîtes de nuit échangistes. Donc là ça a carrément viré. Après il y a eu la mafia qui s'y est mise, que du coup
donc des réseaux de prostitution.
Alors je sais pas si on peut parler de prostitution, en tout cas c'était plus du tout le naturisme qu'on connaît. Et j'ai des amis qui ont eu des menaces avec des pneus crevés, des voitures brûlées, parce qu'ils luttaient contre ça, contre ces dérives-là, et qui ont dû déménager.
D'accord, oui, d'accord, un système bien rodé, bien mafieux.
Oui, même des menaces de mort. Le Cap d'Agde, c'est vraiment une exception, c'est une caricature. Quoique, il y a le centre René Oltra qui est à proximité, qui essaye de garder quand même une éthique naturiste.
Conscience professionnelle oblige, c'est dans le plus simple appareil qu'un couple de policiers, un homme et une femme, s'est mêlé à la clientèle de ce club échangiste d'Agde. Lorsqu'ils ont été démasqués, ils ont dû battre en retraite, mais mission accomplie, le club a été fermé, n'en déplaise à certains vacanciers.
Reportage sur le Cap d'Agde réalisé par la 5, chaîne privée de Berlusconi à l'époque, le 10 août 1988.
Les policiers d'Agde sont intervenus à la demande des associations de copropriétaires du village naturiste, l'un des plus grands de France, 30 000 vacanciers l'été, parmi eux les pionniers les plus intransigeants.
C'est inadmissible. Le village naturiste, on n'est pas. S'ils veulent faire ce qu'ils font, il y a Pigalle, il y a San Paoli, il y a ce que je fais, moi, il y en a dans tous les pays du monde, il y a des endroits qui se prennent pour ça, donc il y a rien, mais pas bien chez nous.
Cette affaire relance la polémique entre les anciens et les nouveaux naturistes. Les seconds, les bétons, comme les appellent les pionniers, vivent dans les immeubles construits à Agde dans les années 70. Les premiers préfèrent camper, question de principe.
Le camping est quelque chose qui est transparent. Nous vivons ensemble, qu'on le veuille ou pas, nous sommes très proches les uns des autres, nous nous voyons, nous nous connaissons, nous voyons tout. Donc, s'il se passait quoi que ce soit que la morale réprouve, dans un camp naturiste comme le nôtre, évidemment tous les voisins ne tarderaient pas à se manifester.
Naturisme bucolique ou naturisme en chambre, au Cap d'Agde, les deux cohabitent. On est loin des années 50 où les nudistes se battaient contre les moustiques et pas contre les échangistes. C'est peut-être le revers du succès.
L'autre jour à la banque, en retirant un peu d'osier, je radiographiais une petite biche qui avait des cheveux jusqu'aux miches. Il y avait derrière nous de vieilles autruches en tablier qui bavaient sur les hippies. Et la jeunesse d'aujourd'hui, on devrait leur couper les tifs, les passer à tabac, enrageait-elle tout bas en tortillant leur cabas. C'est à ce moment-là que les gangsters sont arrivés et le tir juste sur le pif, d'un air vachard ils ont gueulé. À poil, tout le monde à poil, les petits, les grands, les bons, les méchants. On a largué nos caleçons, nos fanfreluches en nylon, nos crocs en accordéon, nos sandwichs au saucisson, nos pistolets à bouchon et nos complexes bidons.
Dans les années 70, il y avait quand même un grand débat entre la Fédération française de naturisme et les adeptes du naturisme sauvage, comme on disait à l'époque, entre ceux qui étaient pour des clôtures, préserver l'intimité ou ne pas de soquer les autres, et ceux qui se disent non, les clôtures, c'est comment dire, c'est un camp. En termes de camp naturiste, c'est vrai, il ne faudrait pas penser au camp de concentration ou un camp où on parque les gens. Ce débat-là, il n'est pas nouveau, mais qu'en est-il de ce débat-là entre partisans de la clôture ou des l'anticlôture.
Oui, c'est un débat qui a bien évolué quand même depuis le début des années 2000. C'est vrai que le mot camp est un terme qui est peu apprécié de la part des naturistes, surtout de l'ancienne génération, parce que ça fait un peu référence au camp de concentration, même si c'est un diminutif finalement de camping. Maintenant, on préfère parler des villages de vacances naturistes, centres de vacances, pour éviter toute utilisation péjorative du mot qui fait référence à un lieu fermé. Il y a beaucoup de centres de vacances, villages naturistes, qui n'ont pas de clôture en fait, où on se sent totalement libre parce que c'est suffisamment grand, où la végétation sert elle-même de clôture naturelle. La genèse de la Sablière, par exemple, qui se trouve aux gorges de la 16, à côté de Barjac, n'ont pas de clôture, pas pour autant des curieux qui viennent voir, rivière à proximité, ça se passe bien. Il n'y a pas forcément besoin de clôture. Bon, après, il y en a relativement petits, entre guillemets, qui ont besoin d'une clôture parce qu'il y a des villas à côté. Il y a la Tuquette, une clôture, la Tuquette.
Oui, dans le Var, oui.
Faïence, qui a une clôture parce qu'il y a des villas, des maisons privées qui sont à côté, donc forcément, ils sont bien obligés d'avoir une clôture.
Par contre, ce n'est pas le cas, par exemple, d'Origan, qui est sa plus jolie ville.
À Origan, effectivement, ils n'ont pas de clôture, même s'il y a un portail d'entrée, mais il y a une falaise qui est... Ils sont placés contre une falaise, c'est une clôture naturelle.
Oui, c'est qui est peut-être un peu risqué pour les voyeurs.
Oui, surtout qu'il y a des naturistes qui sont au-dessus de la falaise. Il y a un parcours de randonnée naturiste qui permet de marcher en totale liberté sans rencontrer personne, faisant le parcours au-dessus en dominant le domaine.
Le temps des vacances est aussi pour certains le temps de se dénuder. Dans notre région, les naturistes peuvent exprimer leur passion sur la commune de Puget-Théniers. Parmi eux, beaucoup d'étrangers, mais aussi quelques familles françaises. Et ce reportage vous prouvera que l'on peut vivre sans voile.
Reportage sur Origan, réalisé en 1988 par France Région 3.
Vous recherchez exactement en venant en France, ici, dans les Alpes-Maritimes, et en faisant du naturisme. Tout d'abord, le soleil, puis le beau temps, et la liberté, forcément. Est-ce qu'il y a un côté réalisation de fantasmes sexuels, et est-ce qu'il y a un côté voyeur dans ce que vous faites?
Non, non, pas du tout. Je crois que c'est l'érotisme dans le vêtement.
On se sent bien, on n'a pas de complexe. C'est vrai qu'on soit gros, qu'on soit maigre, on s'en fiche en fait.
Quand vous rencontrez pour la première fois, vous découvrez votre intimité tout de suite. Est-ce que c'est pas gênant s'il n'y a pas un côté gêne ou pas?
Absolument pas. Absolument pas, parce qu'en général, quand on parle à quelqu'un, on regarde dans les yeux. Hein. Je suis désolée.
Ça, c'est pour les auditeurs, pour qu'ils connaissent un peu les centres naturistes, moins de la région Provence.
Oui, après, il y en a d'autres. Il y a la Haute-Garduère, il y a des centres naturistes qui sont pas adhérents, ils sont pas agréés par la Fédération Française de Naturisme.
Dans le Vaucluse, il y a un centre qui était connu, qui est très ancien, c'est Bélizy, parlons du moment tout.
Alors Bélizy a une histoire aussi très proche de tout ce dont vient de parler là, avec l'histoire du naturisme, puisque c'était un ancien adhérent du Sparta Club de Quillemongeau, qui a trouvé le domaine, et qui a créé le domaine Bélizy en 68. Donc il est issu du courant, on va dire, de toute l'histoire du naturisme, ce lieu-là. Et c'est devenu un haut lieu du naturisme au pied du Mont Ventoux. Après, nous avons le domaine de l'Escride à Belgentier, à côté de Toulon. Nous avons aussi le domaine naturiste Verdon-Provence, qui a une histoire aussi très intéressante, puisque c'est une jeune demoiselle non naturiste qui a acheté avec son papa le domaine et qui est devenue naturiste, du coup. Et qui a, dès le départ, voulu que le lieu reste naturiste, tout en se demandant si elle allait pouvoir franchir le pas. Et puis elle a été conquise par la philosophie naturiste, la bienveillance des premiers résidents, des premiers vacanciers, qui ne la jugeaient pas du fait qu'elle ait du mal à franchir le pas. Et petit à petit, elle a franchi le pas, et maintenant c'est une naturiste totalement convaincue.
Oui, il a remplacé celui qui malheureusement a disparu, celui d'Henriot.
Oui, oui. Bah alors oui, le domaine d'Henriot a disparu, et effectivement, il y a quelques lieux comme ça qui ont disparu et d'autres nouveaux qui apparaissent. Il y a le Vallon des Oiseaux aussi à Riane, il existe toujours. Après, il y en a un certain nombre en Corse. Faut pas oublier nos amis corses, puisqu'ils font partie de la PACA Corse dont je suis le vice-président, avec donc du coup Rivabella, la Chiappa, Oufuru, Bagheera. Puis les nombreuses plages, nous avons un certain nombre de plages qui sont toutes référencées dans la brochure de la Fédération Française de Naturisme sur le site internet. Notamment à Marseille, nous avons eu la reconnaissance officielle du naturisme aux pierres tombées.
Le breton était utilisé depuis très longtemps.
Oui, mais alors on remarque que quand même le naturisme est reconnu après un certain nombre d'années de pratique dans le lieu. C'est très très rare qu'une plage naturiste ait une reconnaissance avant qu'il y ait une pratique ancestrale du lieu.
Je comprends bien, il faut squatter le lieu avant pour être reconnu.
Et oui, c'est tout à fait ça. Il faut quelque part être dans l'illégalité, si on considère que c'est illégal. Nous, on ne considère pas que c'est illégal, mais il faut franchir les... Il faut braver les lois pour instaurer une sorte d'antériorité de la pratique pour que finalement les autorités reconnaissent que ça pose pas de problème et que du coup, ben, c'est autorisé.
C'était l'émission L'Histoire continue, consacrée à l'histoire du naturisme à Marseille et dans sa région, avec Bruno Sorez, auteur de 120 ans de naturisme à Marseille. C'était la quatrième partie, les années 70-90, mutations et interrogations chez les naturismes. Réalisation Éric Lebreu, Radio Galère, juin 2025. Que vous pouvez réécouter et télécharger un podcast sur le site de Radio Galère.